RFI 9h30, à Paris 7h30, en temps universel. Et un nouveau point sur l'actualité africaine avec vous, Arthur Ponchelet.
Et à la une ce matin, l'alliance avec les Wazalendo, une stratégie risquée pour la paix en RDC. C'est un rapport d'Ebouteli et du Centre d'études pour le Congo qui le dit. On appelle un spécialiste dès le début de ce journal. Un peu plus de 2 milliards de dollars sur 5 ans pour réformer la police. Le gouvernement congolais mise gros pour transformer l'institution en profondeur et notamment recruter 90 000 nouveaux policiers. Dans ce journal aussi, le Niger veut rapatrier des milliers de migrants pour éviter un désastre humanitaire. La diplomatie américaine tente de forcer la main des pays africains pour l'adoption de Starlink. Et puis les sports dans un instant, la finale aller de la Coupe de la Confédération hier. Berkane s'offre une belle marge face à Simba après sa victoire 2-0. 30 pages pour raconter deux décennies d'évolution des Wazalendo. Ebouteli et le groupe d'études sur le Congo publient un rapport, un texte qui revient sur les origines de cette coalition de groupes armés, désormais alliés des FARDC, dans la lutte contre l'AFC M23. Quelles conséquences pour les populations locales? D'après les chercheurs, ce choix d'externaliser le conflit pourrait bien entraver les efforts de paix à long terme. Écoutez Regan Miviri, il est spécialiste des dynamiques de conflit à Ebouteli.
Une dynamique à suivre parce que on ne sait pas ce que ça va devenir avec les grands bouleversements qui peuvent arriver, mais notamment aussi avec toutes les pistes de solutions à cette crise. Il faudra tenir compte de cette dimension des armes qui ont été données à ces différents groupes armés et se rassurer que l'on puisse trouver une solution au potentiel problème d'insécurité qui émanerait encore une fois de cette phase de la sous-traitance de la sécurité aux groupes armés.
Dans votre rapport, vous revenez également sur ce que peuvent être les conséquences de cette sous-traitance des aspects sécuritaires de la gouvernance.
Déjà, une des conséquences, c'est que ça affaiblit l'armée et ça renforce des acteurs qui ne sont pas étatiques, qui grandissent en légitimité. Et ce qui fait que, à la longue, ça risque d'être compliqué en fait de remettre l'autorité de l'État sur des territoires que contrôleraient ces acteurs armés qui ont été légitimés par ce label Wazalendo.
Regan Miviri, spécialiste des dynamiques de conflit à Ebouteli et aux racines de cette guerre dans l'est de la RDC. Il y a entre autres la question des minerais rares. On en parle souvent, mais de quoi s'agit-il vraiment? Éclairage grand format à lire sur RFI.fr. Et c'est justement pour trouver une solution à ce conflit que le nouveau médiateur de l'Union africaine s'active. Fornia Singbe, le président togolais, a reçu hier plusieurs anciens dirigeants africains. Olusegun Obasanjo du Nigeria, mais aussi Catherine Samba-Panza. Et les anciens présidents kényans, botswanais et éthiopiens étaient à Lomé, où ils ont échangé à huis clos pendant plusieurs heures. L'actualité en RDC, c'est aussi cette réforme de la police, présentée hier aux députés. Le ministre de l'Intérieur l'a défendue hier à l'Assemblée. Passion Ligodi, pour refonder cette institution, souvent pointée du doigt pour ses abus, le gouvernement ne lésine pas sur les moyens.
2 milliards 300 millions de dollars sur 5 ans, c'est ce que prévoit le gouvernement congolais pour réformer la police nationale. Trois priorités sont mises en avant dans ce programme. La première, c'est la professionnalisation. Elle absorbe plus de 72% du budget. Cela comprend le recrutement et la formation de 90 000 policiers. Parmi eux, des unités d'intervention, mais aussi des policiers de proximité. Un besoin urgent dans un pays confronté à la montée des gangs urbains. Deuxième priorité, le renforcement du cadre institutionnel. Autrement dit, poser les bases d'une police mieux organisée avec des structures solides et cohérentes. Ce volet représente un peu plus d'un quart du budget, environ 600 millions de dollars. Enfin, un dernier axe porte sur le dialogue entre la police et la population. Il pèse peu dans l'ensemble, presque 3% du budget, soit un peu plus de 50 millions de dollars. Le plan prévoit aussi la mise à la retraite de 10 000 policiers d'ici à 2028, la construction ou la réhabilitation d'infrastructures, un investissement massif dans les équipements, rien que pour cela, Près $1 milliard sont programmés.
Passion Ligodi. En bref, au Tchad, les avocats des transformateurs ont pris la parole hier. Pour la première fois depuis l'arrestation de Succès Masra, l'ancien Premier ministre et opposant est en garde à vue depuis vendredi. Le pouvoir l'accuse d'avoir incité à des massacres cette semaine à Mandakao, notamment à travers un message audio diffusé sur les réseaux sociaux. Mais les avocats de Succès Masra l'assurent, l'audio qui circule date d'il y a 2 ans. Ils demandent la libération immédiate de leur client. Lui a été enlevé il y a une semaine. On est toujours sans nouvelles de Lassim Bouitigras, le leader des socialistes au Congo, a été emmené par des hommes non identifiés dans un quartier de Brazzaville. C'est ce qu'a dit l'Observatoire congolais des droits de l'homme vendredi dans un communiqué. Selon l'ONG, il avait manifesté son intention d'être candidat à la prochaine présidentielle. La présidentielle au Cameroun, ce sera dans 5 mois, en octobre prochain. Et déjà, les candidats s'active, notamment un, le président Paul Biya. À 92 ans, il affûte sa stratégie de communication et investit les réseaux sociaux. Comment l'analyser et quel impact cela peut-il avoir sur la campagne? Décryptage en longueur à lire sur RFI.fr.
RFI.
7h36, en temps universel. Le Niger va appuyer l'Organisation internationale pour les migrations pour éviter un désastre humanitaire. C'est ce qu'a dit le gouverneur de la région d'Agadez. 4000 migrants seront rapatriés vers leur pays d'origine d'ici le mois de juillet. Ces dernières semaines, les refoulements de migrants vers le nord du Niger sont de plus en plus fréquents. Une vague sans précédent, dit même le général Ibra Boulama Issa. Azizou Chehou de l'ONG Alarm von Sa décrit ainsi une surpopulation et des conditions de vie très difficiles dans les centres d'hébergement.
Le gouvernement, de manière générale, a pris la question à bras le corps. C'est la deuxième mission officielle qui se déplace pour voir des visus ce qui se passe à Samaka. Et si les autorités pensent qu'il faut prendre des mesures d'accompagnement, nous trouvons que c'est tout à fait normal parce que ces personnes-là ont été refoulées des pays du Maghreb, en particulier de l'Algérie. Et ils sont à Samaka, une petite bourgade avec moins d'opportunités, avec une température maximale de 47 voire 48 degrés. Et sans abri, les centres de transit étant débordés, et si effectivement il peut y avoir de discussion entre les différents pays d'origine de ces personnes dans cette situation. Et pour le rapatriement, nous ne pouvons que saluer cette initiative parce que la situation est insoutenable du côté de Samaka, comme il a été dit.
Propos recueillis par Magali Lagrange. Et hier, près de 300 migrants ont été secourus en Méditerranée par l'Ocean Viking. Ils étaient à bord d'embarcations de fortune, épuisées et à la dérive au large de la Tunisie et de Malte. Depuis le début de l'année, près de 500 personnes sont mortes en Méditerranée, selon l'OIM. L'actualité au Niger, c'est aussi cette déclaration d'Orano, le groupe minier français l'assure. Plusieurs parties ont exprimé leur intérêt pour ses actifs au Niger et sont libres de soumettre des offres si elles le souhaitent. Depuis le coup d'État, les relations entre l'entreprise et les autorités n'ont cessé de se dégrader. Le groupe a par exemple perdu le contrôle de sa filiale de la Somaïr en fin d'année. Près de 1000 tonnes d'uranium y sont stockées, soit 250 millions d'euros. C'est une petite plaque blanche de quelques centimètres de côté avec un trépied pour la maintenir. Starlink, le réseau internet haut débit d'Elon Musk, continue de s'implanter sur le continent. Il s'appuie sur des milliers de petits satellites, peut-être les avez-vous déjà aperçus en levant la tête vers les étoiles. Et désormais, Starlink et son patron Elon Musk ont un allié de taille, Donald Trump. Nathanaël Vitran, d'après plusieurs médias américains, le département d'État ferait pression sur plusieurs gouvernements africains pour le compte d'Elon Musk.
Une enquête en 2 temps. Début mai, le Washington Post révèle que Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, a donné pour mission à ses équipes de tout faire pour faciliter l'adoption de Starlink. Objectif, contrer la mainmise technologique chinoise sur le continent. En cette fin de semaine, le média d'investigation ProPublica va plus loin et révèle la manière dont ces pressions s'exercent sur les dirigeants africains. Il est par exemple question de cette rencontre début février entre l'ambassadrice américaine en Gambie et le ministre gambien des télécoms. La diplomate ne se contente pas alors de faire la promotion agressive exclusive d'un service privé. Devant les réticences du ministre à offrir une procédure d'accréditation accélérée à Starlink, l'ambassadrice laisse entendre que cela pourrait avoir des conséquences sur un projet de développement des infrastructures en Gambie soutenu par les États-Unis à hauteur de 25 millions de dollars. Une menace à peine voilée, d'autant plus concrète qu'Elon Musk a lui-même supervisé ces derniers mois de nombreuses coupes dans l'aide au développement. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, 5 pays africains, dont la RDC et le Tchad, ont accordé une licence à Starlink. Cité dans l'article, un ancien ambassadeur américain résume « Si un autre pays faisait la même chose, nous parlerions de corruption parce qu'il s'agit de corruption. »
Nathanaël Vitron du service économie de RFI. On part pour Cannes avant de refermer ce journal. Vous le savez, tous les matins, nos envoyés spéciaux nous font vivre cette 78e édition du festival. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'Éléonore Yaméogo, réalisatrice burkinabé mondialement connue. Cette année, elle est venue chercher des partenaires pour la production de Tata Gabi, un projet de documentaire Ouda Ibrahim pour raconter le quotidien de migrants subsahariens au Maroc.
Déjà dans son premier film, Paris, mon paradis, tourné en 2011, Éléonore Yaméogo questionnait le bonheur que les émigrants africains sont venus chercher à Paris. Elle avait filmé en réalité l'enfer et la galère de la vie parisienne de trois Africains à Château Rouge. Elle casse le mythe d'une réussite facile entretenue en Afrique. Filmer la marge, le hors-champ est également au cœur de son cinquième documentaire en projet. Elle compte mettre en lumière l'attente de femmes subsahariennes à Casablanca et leur désir de traverser vers l'autre rive de la Méditerranée. Elle vient au marché du film dans l'espoir de faire avancer son projet.
Au-delà de mon projet, pour moi, Cannes, c'est le lieu où il faut être quand on est cinéaste, parce que c'est un moment de communion, un moment de partage avec ses autres confrères cinéastes. Et c'est important de voir le travail des autres aussi. Moi, je me nourris du cinéma des autres pour mieux réinventer mon regard sur mon cinéma. Le plus grand défi, c'est à chaque fois comment trouver la bonne production pour vous accompagner dans votre projet de film. Il faut qu'il y ait beaucoup d'affinités.
Éléonore Yaméogo lutte à travers les réalités qu'elle constate contre les illusions qui polluent la jeunesse de son pays, le Burkina, tout comme le reste de l'Afrique. Ouda Ibrahim, Festival de Cannes, RFI.
Et sur la croisette comme à Paris, il est 9h42, la suite d'RFI Matin avec Julien Coquelroem.